Et donc tous les matins en prenant le train, je comptais jusqu'à 3. 1, 2, 3.
Non, personne ne connaît mon histoire.
Ben, tout le monde va te dire, ouais, moi quand j'avais 20 ans, tu vois, jamais 30 ans, jamais 18. Non, ils vont te dire toujours, ben moi quand j'avais 20 ans.
Qu'est-ce qu'il faut avoir fait à mon âge? Ben, il faut avoir transmis quelque chose.
Voilà.
Voici dans ce 9e épisode une dernière vie qui se raconte, une dernière vie avant la fin de l'été. Cette vie, c'est celle de Priyanto.
Je m'appelle Priyanto, je viens de Mirpur à Dhaka, au Bangladesh.
Et c'est une vie dont on s'est dit qu'elle racontait bien la persévérance. Dans « À ton âge », on a croisé des regards de jeunes et de moins jeunes. Parfois, ces échanges étaient préexistants. Ils ont été captés, des échanges notamment entre parents et enfants. Parfois, ces rencontres, on s'est amusé à les provoquer, à les fabriquer, comme entre Priyanto, aspirant cinéaste, et Rémi Besançon, réalisateur français dont Priyanto regardait les films quand il vivait encore au Bangladesh.
Caroline Gillet, À ton âge, sur France Inter.
Épisode 9, 26 ans, la persévérance selon Priyanto.
Moi, je ne suis pas très, très grand, la taille c'est moyen. Je suis mince, les yeux sont noirs, les cheveux noirs.
Priyanto a les cheveux courts coupés en brosse. Il est petit et fin, il a un regard doux.
J'ai la couleur un peu comme des Arabes, parce que je ne suis pas blanc, même pas noir. Je suis entre les deux.
On pourrait penser qu'il est timide. Qu'est-ce que tu collectionnais quand tu étais petit? On se tromperait.
J'ai collectionné des dessins animés. En papier.
Petit, Priyanto collectionnait les bandes dessinées.
Est-ce qu'il y a une légende liée à ta naissance, de quand tu étais petit, quand t'as raconté?
Oui, il y a plusieurs histoires. La vraie démocratie du Bangladesh est arrivée quand je suis né, la même année, 1991. Et le quartier où je suis né, c'est le même quartier où le plus célèbre cinéaste du Bangladesh a été perdu. Il est venu pour visiter ce quartier où je suis né et il a été perdu comme ça.
Il est disparu.
Il est disparu. Personne n'a pas vu lui. Jamais. Les gens, ils pensent qu'il a été tué là-bas. Parfois, les gens, ils pensent qu'il a été disparu.
Comment il s'appelle?
Il s'appelle Jahir Ayhan.
Comment est-ce que tu t'imagines à 40 ans?
40 ans. J'imagine que j'aurai une école de cinéma à Dakar.
Est-ce que tu es très différent de tes parents, au même âge?
Mon père, quand il était de mon âge, il y avait la guerre au Bangladesh. Donc, il n'avait pas l'opportunité d'aller à l'école ou au lycée. Et ma mère, quand elle était mariée, quand elle avait 15 ans, donc elle avait dû arrêter d'aller à l'école. Mon père a commencé à travailler très jeune. Mais moi, j'avais beaucoup d'opportunités de faire des choses et de voir le monde différemment.
Quand le père de Priyanto était jeune, il y avait au Bangladesh la guerre d'indépendance. D'ailleurs, quand j'ai rencontré Priyanto pour la première fois, c'était pour un reportage à Dhaka, chez lui, pour les 40 ans de ce conflit. Parce que souvenez-vous, il y avait eu l'indépendance de l'Inde, puis celle du Pakistan, et enfin le Pakistan oriental était devenu le Bangladesh. Il y a dans ce pays une culture, une langue propre et beaucoup de poètes. Sur sa page Facebook, Priyanto a partagé une image qui dit que les Bangladais sont les Italiens de l'Asie.
We have a different kind of identity, like we have a different language and we have a different culture and tradition.
Priyanto ne parlait pas le français. Il apprenait à l'Alliance. Et c'est là qu'on s'était retrouvés pour discuter dans un coin de la médiathèque. On était entre deux rangées de livres et de DVD. Parmi les films proposés sur les étagères, il devait y avoir Le premier jour du reste de ta vie. Et je ne savais pas encore à ce moment-là que ce film aurait son importance. Dans l'interview en 2011, ce qui ressortait, c'était la peur. Priyanto avait raconté des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout.
Prianto dit « On a une langue, une culture et des traditions différentes. Mais en Inde, il y a 7 États. Ils ont tous des cultures, langues et traditions différentes. Pourquoi ne pourrait-on pas cohabiter avec les Pakistanais ? Leurs universités sont plus grandes, il y aurait moins de problèmes de démocratie, de démographie, la situation économique serait moins problématique. Il faut que notre pays soit plus fort. » On ne veut plus de tuerie, on veut plus de travail, on veut une meilleure éducation. Il y a 40 ans, au moment de l'indépendance, c'est déjà ça qu'on exigeait. Quand je demande à Prianto s'il y a au Bangladesh une vraie démocratie, il dit non. Autour de la Méditerranée, les jeunes sont dans la rue, que ce soit en Espagne ou en Égypte ou en Tunisie. Ici, les jeunes ne sont pas dans la rue. Comment est-ce que toi, tu l'expliques ? Il dit « Les jeunes sont achetés par les partis politiques. Rien ne va bouger ici. Seule l'armée peut changer les choses. Les politiques en sont incapables. »
C'est
étonnant, c'est une jeunesse qui veut un coup d'État de l'armée. Je lui demande s'il se sent en sécurité. Il répond non. Il dit qu'il a peur d'être kidnappé, tué, accusé à tort. En fait, quelques jours auparavant, en rentrant des cours, Prianto avait sans raison été interpellé par la police. Des policiers l'avaient arrêté, emmené au commissariat et gardé toute la nuit. J'ai eu peur. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien à manger. Je leur demandais pourquoi vous me gardez là. Ils répondaient « Appelle ton père, dis-lui de venir te chercher avec 500 euros ».
It was very scary. They didn't give me any food, and they kept me in a room where there were no lights.
J'ai donc été détenue arbitrairement jusqu'au paiement d'une rançon par mon père. C'est pas ça la démocratie.
Why are you keeping me here? You haven't found anything illegal inside me or with me. Police are blackmailing us. Then why?
Et puis il parle des politiciens.
No, I can remember. I saw everything happened in front of my eyes.
Il parle de celui qui habite pas très loin de chez lui à Dakar. Qu'il l'a vu faire des choses, comme ce jour quand il avait 11 ans. Le politicien était accusé de corruption. La police était venue l'arrêter. Le politicien était sorti devant les grilles avec ses gardes du corps. Il avait attrapé un des policiers. Il l'avait coupé en morceaux, avec un grand couteau, devant tout le monde.
The policemen were shouting, help me, but no one came out from their houses to help.
Les policiers appelaient à l'aide, personne ne faisait rien. Prianto était à la fenêtre, il a tout vu. À l'époque, je ne connaissais pas bien Prianto. En réécoutant ça, je me demande s'il envisageait déjà de rejoindre l'armée.
Bonjour, c'est vendredi, le 18 avril. Actuellement, je suis à Rangpur et je suis en train de rentrer à Dakar, chez mes parents. Passer une dernière semaine avec vous avant de partir au Mali. Ce voyage est très...
Et quand on s'est écrit la fois suivante, c'était 3 ans après. Prianto avait appris le français et il était en route pour le Mali. Il rejoignait la MINUSMA, la mission des casques bleus au Mali. Il allait y passer 1 an et avec l'argent gagné, il irait en France étudier le cinéma.
Le 25 avril 2014, je suis déjà dans l'aéroport international de Dakar. C'est la première fois que je voyage en avion et aussi la première fois que je voyage à l'étranger. Le matin, j'ai été tellement occupé en faisant les valises que je n'ai pas pu dire au revoir à tous les membres de ma famille et même à mes amis. En général, ils pleurent avant le départ de quelqu'un, mais aujourd'hui, personne n'a pleuré pour moi, sauf ma mère. Ou peut-être c'était moi qui n'a pas remarqué leur émotion. Mais moi, je n'ai pas pleuré du tout parce que je suis très excité de mon premier voyage en avion.
Prianto n'avait jamais quitté le Bangladesh, son pays. Au Mali, il allait devoir faire face au groupe islamiste. Il m'avait alors envoyé des sons enregistrés avec son téléphone dans les derniers jours avant son départ pour Bamako.
L'avion vient de commencer à rouler. Ici, nous sommes 250 soldats de l'armée bangladaise et nous allons tous ensemble au Mali. Par l'avion charter de Jordan Airlines. Actuellement, c'est exactement 7 heures du soir et le soleil vient de tomber. Aujourd'hui, je vais témoigner la nuit la plus longue de ma vie, la nuit de 16 heures.
Quelques camarades sont encore en train de téléphoner leur famille, même si c'est interdit ici. Je crois que les belles hôtesses de l'air vont se fâcher bientôt si elles le voient. Waouh! Je ne savais pas que le panorama de la ville de ma naissance est si magnifique d'un autre. Toutes les lumières partout dans la ville se voient comme des étoiles. La ville entière est comme le ciel de minuit avec plein d'étoiles. Toutes les choses se voient comme miniatures. Les immeubles, les autoponts, l'hôtel 5 étoiles là-bas et tout. Cette ville va me manquer trop.
Sur Facebook, Prianto a mis une photo de lui en uniforme. Il est impressionnant. Il m'a envoyé des vidéos de lui, en 4x4 dans le désert, arme à la main. Il trace sur les pistes. Comme Prianto était un des rares de son unité à parler français, il était souvent amené à intervenir dans les négociations entre groupes rebelles. Il avait 23 ans.
Prianto ? Ça va ?
Oui, ça va.
Oui, cool, je suis contente de t'avoir.
Et puis, du Mali, Prianto a pris un billet pour Paris.
Ça va ?
Oui.
Et moi, je l'attendais à Orly.
C'était combien de temps le vol ?
7 heures.
7 heures. Et ça va ? T'as l'habitude maintenant des grands vols ?
Oui, oui, oui.
C'est tout ce que t'as comme ça ?
Oui.
Ces deux-là, d'accord. T'as bien voyagé ?
Oui.
T'es content ?
T'as changé la dernière fois ?
J'avais pas de lunettes.
Oui.
Et donc, t'es jamais venu en France ?
Non, c'est la première fois.
T'es content ?
Oui, mais à l'arrivée à Paris, c'était pas bon. Parce que les policiers, là, ils m'ont arrêté, ils m'ont demandé pourquoi je suis ici, qu'est-ce que je vais faire ici. Ils disent que normalement, les Bangladais, ils voyagent pas en France ou en Europe.
Ah ouais ?
Oui.
C'est les policiers qui t'ont dit ça ?
Oui, et ils m'ont dit d'attendre 20 minutes là-bas. Ils disent pourquoi vous étiez à Bamako ? Vous êtes Bangladais, mais qu'est-ce que vous faites à Bamako? Il dit, je travaille pour l'ONU, pour la MINUSMA, et il dit, ok, ça va.
Tu veux prendre un croissant pour le taxi?
Croissant, c'est quoi, c'est
le
pain?
Le croissant, c'est le pain spécial français, tu sais, en forme de lune. Tu connais pas?
Non, mais à l'avion, il m'avait donné du pain, et il y avait du chocolat dedans.
Ah, alors ça, c'est le pain au chocolat.
C'était, t'en souviens-tu, ce bel instant perdu d'un Paris qui n'est plus. C'était, t'en souviens-tu, l'odeur d'un matin nu, d'un Mali dévêtu. Chose est sifflée, un morceau de ta vie est passé. Va et tu le retrouveras.
À ton âge, Caroline Gillet, sur France Inter.
Prianto a quitté le Bangladesh pour le Mali, puis pour Paris. Il vient d'arriver et c'est sa première fois en Europe.
Il y a autre chose que tu as envie de voir ?
Il a prévu des repérages à la Sorbonne notamment, parce qu'il veut y faire des études de cinéma.
Le musée à Louvre.
On ne s'est pas revu en vrai depuis 3 ans. La dernière fois, c'était au Bangladesh. Entre-temps, il a donc été en mission au Mali, avec les casques bleus, pour financer ses études.
T'as mis des petites croix rouges sur la carte avec les choses que tu veux visiter, c'est ça ?
Dans le taxi, on mange un croissant et Prianto me raconte qu'en mission, il a rencontré via Facebook la sœur d'un de ses collègues.
Après le Sainte-Valentine, je vais quitter Paris.
D'accord. Et t'as une copine ?
Oui, maintenant j'ai une copine.
À Bamako ou à Dakar ?
Non, non, à Dakar. Je vais acheter quelque chose et quand je rentre à Dakar, je vais la
donner. D'accord. Ouais. Vous êtes ensemble depuis combien de temps ?
Depuis 9 mois.
D'accord. Ah, c'était
juste. On n'a pas rencontré encore.
Ah, vous, tu l'as pas rencontré ?
Non, non.
C'est par Internet.
Internet, oui.
D'accord. Et comment tu l'as rencontré ?
Sur Facebook.
T'as une photo d'elle là ?
Oui.
Tu peux montrer ?
Oui.
T'es pas obligé, hein ?
Non. Elle est très jeune.
Très jeune. Très elle jeune. A quel âge ?
Elle a 17 ans.
Et toi, t'as quel âge ?
23 ans.
Oh, c'est vrai. Waouh ! Ah, elle a une bonne tête.
Ouais.
Trop chouette. Ah, en costume traditionnel, waouh !
C'était le mariage de son oncle. Et là-bas, elle a porté ça. Wow. Elle a été très fâchée sur moi.
Pourquoi ?
Parce que moi, j'étais en patrouille et je n'ai pas répondu à ses messages. Ouais, elle a été fâchée, elle m'a envoyé cette photo.
Elle avait peur pour toi ? Parce que tu prenais des risques ?
Ah oui, oui. Mais elle prend plus de risques que moi.
Pourquoi ?
Parce que ses parents ne sont pas d'accord qu'elle parle avec moi. Elle parle en cachant le téléphone.
Tes parents, ils sont au courant ?
Oui, ma mère seulement, elle est au courant. Et elle l'aime bien.
Elle l'aime bien ?
Oui. J'aime bien les villes. Florence, Barcelone et Berlin.
Quand j'ai retrouvé Prianto, il avait voyagé.
J'ai mangé le ravioli à Florence et aussi des pommes frites. Ça, j'ai trouvé très bon.
Il avait été en Europe, si. Il avait vu Florence, il avait vu la Mona Lisa et la Tour Eiffel. Et il était un peu déçu.
J'ai pas trouvé la Mona Lisa pendant 30 minutes. Et puis quand je suis arrivé devant la Mona Lisa, je vois que c'est trop petit. Et même le Tour Eiffel, c'était pas impressionnant pour moi. Mais quand j'ai visité la nuit, c'était très bon parce qu'il y avait la lumière.
Au cours d'un voyage entre la France et la Suisse, il avait aussi vu la neige.
C'était pas très froid là-bas, mais la neige, c'est très beau. C'était la première fois que j'ai vu ça. Et j'ai touché pour la première fois. J'ai marché sur ça.
Et quand le bus s'était arrêté à une station-service, Prianto était descendu et avait posté sur Facebook une vidéo de lui tournant neiges, sous les flocons avec un grand sourire.
Et quand j'ai filmé tous les autres passagers dans le bus, ils regardaient comme « qu'est-ce qu'il fait là ?»
Et dans la vidéo, on voit que tu remontes à l'intérieur du bus avec de la neige partout.
Oui, oui.
Et tu te rends pas compte qu'il faut que tu l'enlèves parce que sinon ça va devenir de l'eau et tu vas être mouillé.
Les autres passagers regardaient sur moi. Comme qu'est-ce qu'il fait, il va dans le bus avec la neige et tout.
Après sa visite d'exploration en France, Prianto rentre au Bangladesh. Et là, je sais qu'il va voir son amoureuse, Ochika, pour la première fois.
Alors, dans le coin, c'est bien là, le plus loin de la rue possible. Ah ouais, super, cette petite table-là, c'est bien, ouais.
C'est bien ici ?
On s'appelle sur Skype quelques semaines plus tard.
Ouais, très
Prianto
bien.
Prianto est dans un café-snack où il a trouvé du réseau, tout au-dessus d'un carrefour de la capitale.
Et alors, il faudra que tu
bruit,
dises au chauffeur
lui
de
lui a les yeux qui brillent.
Klaxonner, s'il te plaît. Tu peux me la décrire ?
Ah, elle est très belle, bien sûr. Elle comprend tout. Quand je suis fâché... Qu'est-ce que j'aime quand je voudrais parler, elle comprend tout.
En tout cas, j'ai l'impression que t'es amoureux parce que t'as un sourire de garçon amoureux quand tu parles d'elle. Tu dirais que t'es amoureux d'elle ?
Oui, je suis. Je suis amoureux d'elle. Mais elle parle trop sur le téléphone, mais elle parle pas. Elle est timide quand je la rencontre.
Et est-ce que vous êtes déjà embrassé ?
C'était dans sa maison, mais pas dans la chambre, mais
dans le salon ?
Non, c'était pas dans le salon. Comment on dit ? Stairs.
Dans les escaliers ?
Oh oui, dans les escaliers, dans sa maison. Tout d'abord, elle n'était pas d'accord, mais après quelques essais, elle était d'accord. Et elle était contente aussi. Ensuite, à la nuit, elle m'a dit qu'elle était contente.
Mais vous n'allez pas plus loin ?
Non. Ça, c'est interdit encore au Bangladesh.
Et donc, du coup, toi, tu n'as jamais eu une relation avec une fille, une relation sexuelle ?
Non, pas encore. Mais au Bangladesh, on fait comme ça qu'après le mariage, on fait une relation sexuelle.
Prianto a travaillé un an auprès des Casques Bleus pour financer ses études. C'est un projet au long cours, mais il sait ce qu'il veut et il va y arriver. En amour, c'est pareil. Prianto est persévérant.
Et comment est-ce qu'on dit « je t'aime » en bangladais ?
Je t'aime. Ami tomake bhalobashi. Ami tomake bhalobashi.
Et comment on dit « veux-tu m'épouser » ?
Ami tomake biye korte chai.
Tu t'es mis à genoux ?
Ah non, c'était elle qui m'a proposé tout d'abord. Dans ma relation, c'est toujours elle qui fait des choses volontairement tout d'abord. Et puis moi, je réponds. Parce que moi, je suis plus timide qu'elle. Donc, je n'arrive pas à exprimer mes sentiments. C'est toujours elle.
Donc, c'est elle qui décide dans le couple.
Oui, c'est toujours elle. C'est pourquoi je l'aime. C'est pourquoi je l'aime beaucoup. Les parents de ma copine ont déjà été informés de nous. Mais... ils n'étaient pas d'accord parce que moi j'ai quitté l'armée, c'est ça. Elle, sa mère voulait que je travaille toujours avec l'armée, mais comme j'ai quitté l'armée, elle ne m'aime pas.
Elle n'a pas envie d'un gendre qui fait du cinéma.
Non, elle ne sait pas encore que je vais étudier le cinéma et je vais être un cinéaste. Elle ne sait pas encore. Elle sait juste que j'ai quitté l'armée. Je veux tout d'abord finir mes études et trouver un bon travail. Et puis, je vais demander sa mère pour nous laisser marier.
Ce sera dans combien de temps alors, tu penses ?
Encore 6 ans. Dans 6 ans, elle va aussi finir ses études. Comme ça, ça va mieux.
D'accord. Et donc, tu dois attendre 6 ans, ça va aller ?
Oui, ça va aller.
Est-ce que tu sens déjà que l'amour y change avec le temps qui passe ? La relation ?
Non, je pense que avec le temps, l'amour s'améliore. Je n'arrive pas à exprimer ça en français, mais...
Tu peux le dire en anglais, je traduirai.
Oui. If we wait for something... The interest becomes more powerful.
Quand on attend quelque chose, le désir pour cette chose devient plus puissant.
Oui, c'est ça.
Est-ce que ça te fait souffrir les règles que t'imposent tes parents ou est-ce que tu les respectes ?
Non, je vais essayer de les convaincre tout d'abord. C'est ça la façon. Parce que moi, j'ai déjà vécu avec mes parents pour 24 ans et je ne peux pas les quitter juste pour le mariage. Donc la seule solution, c'est de convaincre les parents avant, pour le mariage.
Prépare quoi alors ?
Du riz traditionnel bangladais et un légume. Que j'ai essayé
aujourd'hui la première fois. Je ne sais pas ça sera comment.
Ok.
En septembre dernier, Prianto est revenu en Europe pour commencer ses études. Il s'est inscrit à la Sorbonne en cinéma. Il a trouvé une coloc dans une petite maison de Bagneux. Ils ont une cuisine et Prianto m'a proposé de venir dîner. Quand j'arrive, il me précise en souriant que les habitants de Bagneux sont les balnéolais. Alors on peut dire ça maintenant, Prianto est devenu balnéolais.
Au Bangladesh, je n'ai jamais cuisiné, même au Mali.
Et du coup, tu t'y es mis et comment t'as fait? T'as été sur internet ou t'as demandé à ta mère?
Oui, j'ai appelé ma mère et mes tantes. Ils m'ont donné des informations.
Le lendemain, Prianto poste sur Facebook des photos de notre dîner. Mais avec le flash, son riz spécial donne moins bien qu'en vrai.
Les premières 2 mois n'ont pas marché.
C'est-à-dire? C'était mauvais?
C'était mauvais, oui. J'ai toujours mis beaucoup de piment.
Comme commentaire, il a mis « Je n'expérimente pas toujours des nouveaux plats, mais quand c'est le cas, j'invite quelqu'un à dîner pour, en cas de problème, ne pas mourir seul. »
Ici, chaque fois que je cuisine, ça prend au moins 2 heures pour une personne. Mais donc moi, je me rappelle comment ma mère faisait avant, parce qu'elle cuisinait pour 7-8 personnes à la maison. Donc elle devait travailler toute la journée dans la cuisine.
La vie en France n'est pas facile. Mais Prianto dit qu'il est heureux d'avoir commencé des cours de philosophie, qu'il veut toujours être cinéaste, qu'il veut toujours épouser Ochika, mais qu'il se sent seul.
Et comme film, qu'est-ce que tu as vu dernièrement?
J'ai vu Pulp Fiction, parce qu'actuellement on étudie le cinéma américain à l'université. Et en plus, j'ai une petite bibliothèque, cinémathèque ici, dans cet appartement.
Ah
je te montre?
Ouais.
C'est la bibliothèque de propriétaire, mais comme elle n'avait plus ici, je l'utilise.
Ah oui, il y a des vieilles cassettes VHS, et là il y a des films. Tu veux les regarder?
Oui.
C'est fou cette maison, il y a du vieux papier peint, des vieilles étagères, des vieux livres. Et ça va, tu te sens pas trop seul ici?
Non. Ça va, parce que j'avais un autre coloc pour 4 mois et après il est parti. Donc les premiers 4 mois n'étaient pas très difficiles pour moi.
Mm-hmm. Et maintenant tu t'es habitué, donc
oui,
t'as plus besoin de personne.
Oui, je suis habitué.
C'est cool. Oups. Mm. Et comment va Oshika?
Ah oui, elle va bien. Elle fait l'examen de bac maintenant. Elle envoie une photo. Mais je n'arrive pas à voir, il n'y a pas de wifi. Qu'est-ce qu'elle a trouvé?
C'est un truc sur l'amour qu'elle t'a envoyé.
Oui.
You finally found it, your other half. The soulmate is always here for you and will accompany you for the rest of your life.
Waouh, dis donc. Elle te dit ça
non,
en fait?
Non, en fait, elle utilise souvent des applications sur Facebook. Et ce sont des messages automatiques.
Et donc, vous êtes toujours amoureux?
Oui. On parle une fois par semaine. Mais on envoie des messages tous les jours.
Ok. Et donc, vous continuez à vouloir vous marier?
Pour le moment, oui. Mais après, je ne sais pas encore parce que sa famille veut qu'elle s'engage aussi dans l'armée. Elle va décider après le bac. Parce que si elle va dans l'armée, elle ne pourra pas se marier 7 ans, 5 ans avant.
Ça va faire long, alors, à la fin. Ça va faire combien, alors, en tout?
En tout, 10 ans. C'est doux. Tu sais, même mes tantes et ma grand-mère, elles m'ont déjà proposé de se marier bientôt.
Et qu'est-ce que tu leur réponds aux tantes?
Je n'ai pas encore répondu. C'est mieux d'être silent, parfois.
Et le silence, ça veut dire beaucoup de choses. Donc si tu réponds pas, peut-être qu'elles peuvent comprendre.
Non, si je réponds pas, elles vont... Elle va penser que j'aime quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec le mariage tout de suite.
C'est bien ça.
Oui.
Et comment tu le sais que c'est elle?
En fait, sa famille était toujours contre moi. Elle a toujours essayé de rester avec moi, même s'il y avait des problèmes. Et on a déjà passé 3 ans ensemble. Et maintenant, je pense que comme on a déjà passé 3 ans, on peut passer toute la vie ensemble.
À partir de combien de temps on peut se dire qu'on peut passer le reste de sa vie ensemble?
Ça dépend pas d'un temps particulier, mais ça dépend d'un moment. On a déjà passé des moments qui m'ont bien convaincu que c'est elle pour moi.
Tu peux me parler d'un de ces moments?
C'était au Bangladesh, en fait. On a décidé de se rencontrer. Et les armées nous ont arrêtés, en fait. Vous savez, c'est interdit de se rencontrer dans des jardins ou là-bas, comme ça. Et elle a fait tout ce qu'elle pourrait faire pour m'aider. Parce que les armées pourraient m'arrêter.
Parce que c'est toi le garçon et du coup t'arrêter parce que t'es avec une fille dans un jardin.
Et les armées voulaient informer sa mère aussi. Et sa mère aussi voulait faire beaucoup, tout ce qu'elle pourrait faire pour me faire arrêter par la mère. Mais elle a fait tout. Elle a convaincu sa mère, elle a convaincu l'armée pour qu'il ne m'arrête pas.
Aujourd'hui, je lui ai demandé de venir ici après son bac. Mais je ne sais pas si elle peut finalement venir ou non. Mais je serais content si elle peut venir. Une semaine, deux semaines.
Ses parents ne vont jamais accepter, si?
Oui, c'est ça le problème. Elle pourrait dire à sa famille qu'elle ira dans une autre ville de Bangladesh pour visiter avec ses amis. Elle peut venir ici pour 3-4 jours.
Waouh!
C'est possible encore, mais...
Ce serait trop bien. Tu crois qu'elle imagine ce que c'est ta vie ou pas?
Non, quand même, c'est difficile pour elle à imaginer la réalité d'ici. Elle pense que c'est comme un film.
Qu'est-ce qui est différent?
Il faut beaucoup travailler ici. Sinon, c'est difficile.
Ça donne bien? Ouais, c'est pas mal. Et c'est qui les gens qui commentent tes photos? C'est les gens au Bangladesh?
Oui. Ils sont jaloux parfois parce que même mes amis au Bangladesh, ils ne connaissent pas cuisiner. Ils pensent que je suis très content ici, mais parfois je les explique que je ne suis pas toujours content d'être très seul parce que je dois cuisiner après une très grande journée à l'université.
Je me demande s'il est déçu de sa vie française, si elle est très différente de celle qu'il avait fantasmée en voyant les films de Rémy Besançon.
Je ne sais pas que ce soit comment...
C'est lui qui avait réalisé notamment Le plus beau jour du reste de ta vie, où il est question du temps qui passe, de comment on grandit et à partir de quand on vieillit. Allô?
Allô, oui, Carly.
Oui. On a trouvé le contact de Rémy Besançon. On lui a parlé de Prionto.
Je me demandais si t'étais libre la semaine prochaine.
On lui a demandé s'il accepterait de venir à la radio rencontrer Prionto. Et il a dit oui.
On a organisé un rendez-vous avec Rémy Besançon. Le réalisateur dont tu nous disais que c'était ton réalisateur préféré.
Ah oui, oui, oui. Ah oui. Ah oui. Et comment vous l'avez trouvé?
On a trouvé son contact grâce à des collègues à la radio.
Oui.
Et du coup, on va organiser une rencontre où tu vas venir à la radio et lui aussi, et vous allez pouvoir vous rencontrer et discuter ensemble.
Ah oui, c'est super.
I've been finding the time. Be bored out of my mind. I've been walking for days. I don't have the time to play. You're kind of parlay. So won't you come home soon? Won't you come home soon? Come home soon.
Caroline Gillet sur France Inter.
Prianto, je l'ai connu quand il avait 20 ans. On était en 2011, il vivait au Bangladesh, il rêvait de faire du cinéma.
Bon.
Il avait vu les films de Rémi Besançon, notamment Le plus beau jour du reste de ta vie.
Je vieillis.
Mais moi aussi je vieillis. Tout le monde vieillit.
Il s'était dit pour ça qu'il fallait faire des études en France.
Ah, je voudrais que les choses soient différentes.
Alors il s'était engagé auprès des Casques Bleus, au Mali, pour financer ses études.
Que tout redevienne comme avant. Quand ton père m'aimait passionnément et que pour vous trois, j'étais la seule au monde.
Tu sais, c'est marrant. C'est à chaque fois la même chose. En entrant dans ce cabinet, les gens s'imaginent qu'ils vont rencontrer l'inventeur de la machine à remonter le temps. Mais rien ne redevient jamais comme avant.
Bon ben voilà, Prianto, je te présente Rémi Besançon.
Enchanté.
Aujourd'hui, Prianto a 26 ans, Rémi, il vit en France, Prianto est persévérant, et nous, on a organisé une rencontre entre lui et son cinéaste préféré. Donc il est là aujourd'hui.
Gentil, quand même, hein.
Ouais, ouais.
Il y en a quand même beaucoup d'autres.
Mais comment t'as découvert ce cinéaste?
En fait, c'était pendant ma formation de français. Et j'ai travaillé aussi en même temps dans la bibliothèque de l'Institut français. Et là-bas, j'ai trouvé beaucoup de films français à voir. Et le premier film que j'ai vu, c'était Zarafa.
Ah, d'accord.
Et après, j'ai vu La première joue de l'Est de ta vie. Ouais. Et après, Un heureux événement. Et j'ai vu d'autres films français aussi, mais ces trois films étaient mes préférés.
Pourquoi?
Parce que les histoires ne sont pas compliquées. C'est facile à comprendre. Et c'est en fait, les histoires sont vraies, je crois. Ça raconte la vraie vie qu'il faut raconter par les films. C'est pas les films intouchables. C'est une histoire très particulière, mais c'est pas la France.
Ça me touche beaucoup, en fait. Et je fais aussi des films pour ça, pour qu'ils puissent parler au plus grand nombre.
C'est quoi pour toi la France?
C'est le film de Rémi Besançon.
Et ça veut dire quoi? Ouais. C'est quoi alors?
Ça veut dire les Français, ils sont comme nous. Tout est pareil. L'histoire sont pareilles. C'est peut-être
Ils sont comme nous les Bangladais.
Oui, ils sont un peu différents physiquement, ou peut-être la ville est un peu différente, mais les histoires sont les mêmes dans la famille.
C'est-à-dire?
Il y a toujours un père, il y a toujours des enfants qui n'écoutent pas aux parents, et il y a toujours les pères qui arrivent à convaincre les enfants.
Et toi, il t'a pas convaincu de pas faire de cinéma?
Ah non.
Donc ils y arrivent pas toujours?
Oui.
Toi, tu t'es rebellé contre tes parents?
Ah oui, plusieurs fois.
Ah bon?
Même mon choix d'étudier le cinéma était contre le choix de mes parents.
Oui.
Ah, moi, pareil.
Ah bon?
Ah oui.
Pourquoi? Comment ça s'est passé alors?
Non, moi, il voulait pas du tout que je fasse ça. Il voulait que je sois un métier, comme il me disait, avec une chemise et une cravate.
Tu disais tout à l'heure que tes parents voulaient pas que tu fasses du cinéma.
Oui.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu as réussi à les convaincre?
Je sais pas, parce que j'ai pas encore parlé avec mes parents après avoir choisi le cinéma.
Mais ils savent que tu es ici pour faire des études de cinéma.
Savent, mais je n'ai pas encore parlé comme ça, s'ils sont contents maintenant ou non.
Vous ne parlez pas de ce sujet-là?
Non.
Et vous, Rémi, vos parents sont contents que vous fassiez du cinéma, finalement?
Ils ont compris ce que je voulais faire quand je les ai invités à voir mes films en salle. Et après, ils étaient fiers, mais c'était trop tard pour moi, en fait. J'aurais voulu qu'ils m'aident, qu'ils m'encouragent, pas qu'ils m'aident, jamais demander d'aide à personne. Mais qui m'encourage en fait, c'est l'encouragement, c'est qu'ils y croient un petit peu. Ils y croyaient pas du tout. Et en même temps, c'est une force. C'est-à-dire que on a envie de prouver que quelque part qu'on pouvait y arriver. Moi, je connaissais personne dans le cinéma. J'ai vraiment défoncé des portes pour pouvoir faire mes films en fait. Du coup, après, il y a une grande fierté aussi de se dire, voilà, on y est arrivé seul, un peu contre tous, contre les gens proches, en tout cas. Mais je pense qu'il faut que ça devienne une force. C'est une force, déjà.
Oui, c'est ça. Oui, en fait, j'ai noté plusieurs questions à vous poser.
Vas-y.
Mais peut-être je peux commencer par dire que, est-ce que vos histoires, ils sont influencées par votre histoire personnelle, parfois?
souvent, en fait, c'est souvent des points de départ. Par exemple, sur mon premier film, Ma vie en l'air, je parle d'un jeune homme qui n'arrive pas à grandir et en parallèle, enfin voilà, mes quatre premiers films avaient beaucoup à voir avec ma vie. Je me suis dit, je vais prendre un peu de recul. Parce que à un moment donné, voilà, faut. C'est aussi parce que je vieillis et parce que j'ai raconté les choses que je voulais raconter. Et j'ai pas vécu 10 vies. J'ai pas vécu tant de choses que ça, quoi.
Et selon toi, est-ce que tu t'es donné des règles, genre la persévérance, il faut continuer à en avoir jusqu'à tel endroit, et après il y a un moment où il faut lâcher. Ou est-ce qu'il faut être persévérant jusqu'au bout?
Non, faut jamais lâcher. Jamais, oui. jamais.
Ah bon?
Il faut jamais. Churchill disait ça. Jamais rien lâcher. Je pense que réalisateur, on est forcément un peu têtu aussi. Il y a tellement de choses compliquées dans la fabrication d'un film. C'est un peu, à chaque fois qu'on voit le résultat, on se dit, je sais pas comment j'y suis arrivé. En fait, c'est Kubrick disait, réaliser un film, c'est comme écrire Guerre et Paix dans une auto-tamponneuse. On se demande toujours comment c'est possible de faire ça avec tous ces gens, avec toutes ces contraintes, tout ça. C'est très compliqué, donc faut jamais lâcher et faut être assez têtu. Et je pense que c'est un bon défaut pour un réalisateur.
Pas pour d'autres.
Je sais pas.
Oui, en fait, jusqu'à maintenant, j'ai rien lâché. En fait, j'ai vu jusqu'à la fin. Même au Mali, en fait, il y avait un moment, même pendant la guerre, il y avait un moment quand j'ai décidé de quitter l'armée. Mais après, j'ai réfléchi beaucoup. Et il y avait un moment quand j'ai décidé, non, je vais voir la fin. Donc j'ai resté.
C'était difficile, en fait, la première semaine.
Est-ce que tu peux me raconter comment c'était quand tu es arrivé au Mali?
Après avoir passé 7 mois dans un camp militaire, je suis rentré à Bamako pour visiter la ville.
C'était long, 7 mois.
Oui. Ça s'est passé bien au début. Mais après avoir passé 5 ou 6 mois, la guerre a commencé. Et c'était dur. Une fois, j'avais peur. On a été installé dans un village. Et après avoir passé 3 jours là-bas, la guerre a commencé dans ce village. J'avais peur à ce moment-là parce que j'ai vu beaucoup de gens tués par les groupes rebelles juste devant moi. Les personnes blessées, ils venaient à nous pour avoir des médicaments et des traitements médicaux.
Et c'était la première fois que tu voyais un mort?
J'ai vu des morts avant à Rana Plaza. Au Bangladesh, c'est une usine textile. J'ai vu des morts là-bas.
Qui s'est effondré. Mais tu étais là-bas?
Oui, j'étais là-bas. J'ai travaillé comme un volontaire là-bas. La guerre au Mali, c'est différent. Au Mali, je voyais des blessés qui ont été blessés par des balles. Et il était en train de mourir juste devant moi. Il est en train de respirer. Et après quelques minutes, il était décédé. Je n'ai pas pour faire rien pour eux. Il y avait beaucoup de gens comme ça, des blessés. Ils m'ont demandé pour des traitements médicaux. Mais j'ai dit, je n'ai rien pour vous aider. Et puis, il y avait un instant qu'ils m'ont demandé pour les donner des cigarettes. Ils vont fumer des cigarettes avant de mourir. Donc, c'est différent la situation au Mali. Les gens, ils deviennent fous quand ils sont blessés. Parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas des hôpitaux ou des médecins qui pouvaient les aider. Ils savent qu'ils vont mourir. Donc, ils font des choses comme ça avant d'être morts. Il y avait beaucoup d'enfants soldats au Mali qui ont été blessés pendant la guerre. Et puisqu'ils ne fument pas, ils m'ont demandé pour leur donner un peu de thé. Ils voulaient boire un peu de thé avant de mourir. J'étais triste, mais je ne voulais pas montrer ça aux enfants parce que moi, je suis un militaire. Si je montre que je suis triste, les enfants, ils vont penser d'autrement. C'est pourquoi je n'ai pas montré. Mais j'étais dans ce village 3 jours avant la guerre. J'étais présent là-bas.
Et j'ai parlé avec ses enfants, je les ai donné des cadeaux. On a joué ensemble le football. Et après une semaine, j'ai vu que ses enfants, ils sont morts juste devant moi, à cause de la guerre. Et ils ont tous participé à la guerre. Mais ils ont joué le football avec moi juste une semaine avant.
Quand je t'écoute raconter ça, c'est assez touchant aussi, parce que on se dit voilà, ça ferait un film, quoi, de juste cette histoire, ton histoire.
Rémi Besançon, réalisateur, la quarantaine.
T'avais quel âge quand t'es parti au Mali?
J'avais 23 ans.
Ouais, Prion Tozaman, futur réalisateur, la vingtaine. Ça, sans ils sont en studio ensemble, voyage, ils parlent cinéma et temps qui passe.
C'est une histoire incroyable, en fait. Faudrait que tu penses à raconter ça, peut-être.
Tu vas le raconter, Prionto?
Oui, peut-être.
C'est une belle histoire. Ouais. Le regard que tu as là-dessus, il y a quelque chose à la fois très naïf et à la fois, du coup, très pur et qui est bouleversant. Est-ce que toi, tu écris?
J'ai essayé d'écrire, mais maintenant, j'ai arrêté. Je vois toutes les choses. Mm. Et peut-être quand je vais commencer à faire des films, toutes les souvenirs pour arriver, quand je vais commencer.
Donc tu les peut-être même enregistrer. Oui. Comme ça, c'est bien, tu auras une trace de tout ça. Parce que après, hélas, il y a des choses qu'on oublie. Où tu pourrais te dire, tiens, c'est ce moment-là, peut-être que ça ferait une scène, ça ferait un personnage, ça ferait une situation. Et je pense que même si tu n'écris pas, tu pourras toujours trouver quelqu'un qui pourra écrire avec toi, mais tu lui raconteras, tu lui feras écouter des choses, tu lui montreras des petites notes que tu auras écrites. Et ça suffira peut-être à lancer le projet, en fait. Je trouve ça bien de noter les choses. Tu as un dictaphone sur ton téléphone. Tu t'enregistres, enregistre-toi, même 10 minutes par, même 5 minutes par jour. À la fin, tu auras quelque chose d'énorme. Et puis, ça pourrait être une voix off.
Peut-être pour finir, je voulais vous poser quelques questions sur le temps qui passe, puisque c'est en fait tout l'été, on a raconté des histoires sur le temps qui passe, sur des rapports entre générations, comme on finit l'été avec vous deux. Je me disais peut-être juste revenir sur des questions un peu plus générales sur ça. Qu'est-ce que vous diriez l'un et l'autre que vos parents vous ont transmis, et qu'est-ce que vous êtes allé chercher ailleurs dans ce que vous êtes devenu?
Moi, mon père m'a transmis le côté social, en fait, d'aller vers les gens, d'aller vers les autres, en fait. Quand il était jeune, il a construit des camps de vacances comme ça avec ses amis. Il était très, très social, en fait. Et du coup, il m'a quand même transmis ça. Pas grand-chose de plus.
Et est-ce qu'il y a des choses qu'il a fallu rejeter dans ce qui était transmis?
Ah ben, tout le reste.
Et toi, Prionto?
Pour moi, je peux dire que mes grands-parents et mes parents m'a appris toujours de ne pas faire de mal aux autres. Même si on ne peut pas faire de bien pour les autres, il ne faut pas faire de mal. Au moins.
C'est une bonne chose. Ouais.
C'est ça que tu gardes alors?
Oui, je garde. Et même pour quand je pense à faire des films, je veux garder ça.
À partir de quand est-ce qu'on devient adulte?
Je pense déjà quand on va faire la guerre, ça doit être quelque chose. Ce que tu as vécu au Mali, ça a dû te faire grandir beaucoup.
Oui, en fait, il y avait deux moments dans ma vie. J'ai pensé que je suis devenu adulte. Une fois, c'était au Bangladesh. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire de Rana Plaza. Il y avait une usine textile qui s'est
effondrée.
Oui. C'était en 2012, 2013, comme ça. J'avais 22 ans. Et là-bas, en fait, j'ai trouvé une dame devant un hôpital. Elle n'avait personne avec elle pour l'accompagner. Elle était gravement blessée. Et la femme m'a demandé de rester avec elle jusqu'à ce que sa famille vienne. Et quand elle m'a demandé ça, moi, j'ai pensé que je suis devenu adulte, j'ai de la responsabilité de rester avec elle. Et l'autre fois, c'était au Mali, en fait, quand j'ai vu la guerre et les gens morts.
Mais est-ce que du coup, on peut devenir adulte sans vivre la guerre ou sans...
Oui, en fait, je peux dire que le moment quand on trouve qu'il y a de la responsabilité, quand on réalise...
Qu'on nous a confié une responsabilité.
Oui, une responsabilité, c'est ça.
Tu t'es senti responsable de cette dame, en fait, tu sais, c'est ça. Et, ouais,
c'est ça pour vous, Rémi?
Bah, je comprends ce qu'il dit, en fait. Moi, je me suis senti adulte quand j'ai quitté mes parents, en fait, à 17 ans.
Qu'est-ce qu'il faut avoir fait à vos âges?
Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour faire les choses. Par exemple, j'ai eu mon premier enfant à 44 ans. Qu'est-ce qui pourrait paraître assez vieux, en fait? Voilà, c'est des choses... Je pense qu'on peut faire les choses dans le désordre aussi. L'âge ne compte pas vraiment dans ce qu'on fait, j'ai l'impression.
Est-ce que tu as envie ou est-ce que tu as peur de vieillir?
J'ai peur de vieillir, je pense. Parce que je pense que je n'ai pas encore vu même la moitié du monde. Si je vieillis, je n'aurai pas assez de temps de découvrir le monde.
Et tes enfants, ils sont comment?
J'imagine qu'il agrandira avec des gens de différentes nationalités. C'est important parce que ça nous aide à comprendre le monde, comment le monde ça marche.
Et pourquoi il faut comprendre comment le monde marche?
Pour aider à trouver des solutions. Et aussi, je suis curieux de rencontrer avec des gens de différents pays et savoir leur histoire. Ça, c'est très important. Si on ne sait pas l'histoire des autres, on ne peut pas les juger.
Merci. Et est-ce que tu veux que je prenne une photo de vous deux ensemble?
Oui, bien sûr.
Très bien dans ton costume. J'avoue.
Yesterday my heart was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, sunshine, okay. Oh, sunny, thank you for the love you brought my way. Oh, you gave to me your all and all. Now I feel about 10 feet tall. Oh, sunny one, so true, I love you.
C'était À ton âge, dernier épisode estival. Merci d'avoir été là pour cet itinéraire en 9 épisodes dans les âges de la vie. Ils sont tous disponibles en podcast. Merci à Prionto, à Rémi Besançon et à tous les autres qui ont accepté de se confier. Merci à la sublime équipe avec laquelle j'ai eu le grand privilège de travailler cet été, Flora Bernard, Victoire Faure, Antoine Piel et Djoubaka. Merci à Hugo, à Marie, à Lily Lafronde pour ses illustrations qui sont à retrouver sur le site de France Inter ainsi que sur la page Facebook de l'émission.